Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en train de reprendre progressivement le contrôle, même si le combat contre le coronavirus n'est pas terminé. Déclaration ce matin du ministre français de la Santé, Olivier Véran, depuis l'aéroport de Lyon, où il assistait à des transferts de patients atteints du Covid-19. Nous serons sur place dès le début de ce journal.
Quand le gouvernement n'entend pas ralentir les chantiers en cours, en dépit de la crise sanitaire.
Oui, un comité ministériel présentait ce matin de nouvelles mesures en faveur des personnes handicapées.
En marge de notre journée spéciale livre sur l'antenne de France Culture, invité aujourd'hui de la rédaction.
Nous recevrons Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France. L'actualité en France, mais aussi à l'étranger, avec le début aujourd'hui de la tournée d'adieu du secrétaire d'État américain, lequel doit visiter pas moins de 7 pays en 10 jours. Et puis nous nous rendrons au Brésil pour constater combien le premier tour des élections municipales organisées hier aura largement contribué à confirmer le net virage à droite entamé il y a deux ans, mais aussi à renforcer le retour des partis dits traditionnels. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Des livres, vous le disiez, journée spéciale sur France Culture et pour Radio France, aujourd'hui, en soutien aux livres, aux éditeurs, aux libraires et aux bibliothèques. Eh bien, des livres, c'est la marque de fabrique aussi de la grande table des idées au quotidien. Aujourd'hui, nous recevons l'anthropologue Paul Jorion à l'occasion de la parution du tome 2 de la chute de la météorite Trump. Haute trahison, c'est son titre qui paraît aux éditions du Croquant.
Merci et à tout à l'heure. Le contrôle sur l'épidémie de Covid-19 serait-il sur le point d'être repris en France? Dans tous les cas, ce que pourrait laisser entendre la diminution du nombre de nouveaux cas, de même que la baisse du taux d'incidence, ainsi que l'affirmait déjà hier le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui persiste et signe encore ce matin, alors qu'il assistait depuis l'aéroport de Lyon au transfert de plusieurs patients vers d'autres régions moins débordées par le coronavirus. Même si en réalité le ministre reste prudent sur l'évolution de l'épidémie, il est trop tôt pour crier victoire et relâcher nos efforts, dit-il. Et à ce titre, eh bien la région Auvergne-Rhône-Alpes, particulièrement touchée par le regain épidémique, avec 7000 patients hospitalisés, dont 800 en réanimation, en est sans doute un parfait exemple. C'est un reportage signé Mathilde Imberti.
Deux ambulances du SAMU transportent les malades jusqu'au tarmac. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'entretient avec les soignants et le directeur local du SAMU, le professeur Pierre-Yves Guignot.
Donc il y a deux patients.
Deux patients dans
cet avion.
Alors c'est des patients évidemment atteints du Covid qui ont une atteinte justifiant une réanimation assez lourde depuis plusieurs jours. Là c'est depuis plus de 5 jours. Le but étant évidemment de libérer des lits dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, n'est-ce pas, Jean-Yves ? Parce que on a un manque de lits au jour d'aujourd'hui et qu'on est un peu saturé toujours.
Les patients ont 73 et 80 ans, endormis, intubés et ventilés. En une heure de vol, ils seront arrivés à La Rochelle. Ces transferts restent indispensables malgré les signes d'amélioration, le ministre Olivier Véran.
Nous sommes sur une phase de reprise de contrôle où nous faisons reculer progressivement l'épidémie. Enfin, tant qu'elle est à ce niveau-là, elle peut repartir. Donc il ne faut pas s'arrêter. C'est-à-dire, si demain les Français disent « c'est bon, on arrête, on en a marre » ou « l'épidémie repartirait ». Les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Donc il faut, dans la durée, être encore vigilant et actif et ensuite on pourra discuter du déconfinement.
La tension sanitaire reste très forte en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment Jean-Yves Graal, le directeur de l'Agence régionale de santé.
Les courbes d'incidence commencent à décroître et mais parallèlement, il faut attendre un peu avant d'un effet sur les hospitalisations parce qu'il y a mécaniquement 10 à 12 jours entre la contamination et l'entrée à l'hôpital.
Plus d'une centaine de patients de la région ont été transférés vers d'autres hôpitaux. Ces transferts vont se poursuivre dans les prochains jours.
Un reportage à Lyon signé Mathilde Imberti et Georges Thau pour les moyens techniques. Preuve qu'il n'entend pas ralentir les réformes malgré donc la crise sanitaire. Le gouvernement a prévu de présenter aujourd'hui de nouvelles mesures en faveur des personnes handicapées. Un comité interministériel avait d'ailleurs lieu en ce sens ce matin. Thomas Giraudeau, bonjour.
Bonjour.
Alors il se trouve que cette réunion à Matignon avait lieu alors même que débute ce lundi la 24e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées et à ce titre, Thomas. Premier constat, c'est vrai que les personnes concernées se retrouvent aujourd'hui tout particulièrement touchées par la crise sanitaire.
Ah oui, ils sont 30% de moins à avoir retrouvé un emploi au premier semestre par rapport à la même période l'année dernière. Alors le gouvernement va prolonger une prime exceptionnelle, 4000 euros, versée aux entreprises pour chaque personne en situation de handicap recrutée en contrat de plus de 3 mois. En vigueur depuis septembre, cette prime est maintenue jusqu'au début de l'été prochain. Un bon point, mais cela ne suffira pas à changer les mentalités. Selon plusieurs associations, la majorité des chefs d'entreprise pensent en effet qu'intégrer un travailleur handicapé est complexe, ce qui est faux dans de nombreux cas. Autre obstacle, les chômeurs handicapés sont en moyenne plus âgés et moins diplômés que les autres demandeurs d'emploi. Alors pour faire monter en compétence ces travailleurs, le gouvernement va renforcer les entreprises adaptées, des structures aidées par l'État dans lesquelles ils développent leur savoir-faire et postulent ensuite dans des entreprises plus classiques.
Et ce soutien donc prolongé aux embauches ne constitue en réalité, Thomas, qu'une partie des nombreuses aides formulées ce matin donc par le gouvernement.
Oui, une des plus significatives est en direction des parents en situation de handicap. Ils auront droit à un intervenant une heure par jour chez eux qui s'occupera de leur enfant. Les parents qui ont un enfant handicapé disposeront eux d'une nouvelle plateforme dite de répit via laquelle ils pourront trouver plus facilement un accueil de jour ou une aide à domicile. Et puis un comité national de suivi de l'enseignement supérieur inclusif va être créé pour suivre et encourager les facs, les grandes écoles, les IUT à être plus accessibles aux étudiants handicapés. Mais un directeur d'association que j'ai contacté est sceptique. Il a en mémoire un comité de suivi similaire, celui de l'école inclusive, organisé la semaine dernière. Ce devait être un espace de dialogue entre les associatifs et le gouvernement. En réalité, ça a ressemblé, je le cite, à une opération de communication à sens unique de la part de l'exécutif.
Merci Thomas Giraudot. Eux aussi avaient visiblement l'intention de ne pas ralentir les chantiers en cours. Ce sont les sénateurs de droite qui, en pleine crise sociale, sanitaire, ont fait rentrer par un amendement de dernière minute la réforme des retraites, massivement rejetée par les Français. Samedi dernier, les élus de droite et du centre majoritaire au Palais du Luxembourg ont en effet profité de l'examen du projet de budget de la Sécurité sociale pour proposer non seulement le report de l'âge de départ à la retraite, mais aussi l'allongement de la durée des cotisations, un amendement qui n'a en réalité aucune chance de survivre à la navette parlementaire, mais qui n'aura pas manqué de provoquer aussitôt des réactions indignées à gauche tout d'abord, de même que chez l'ancien ministre de l'Intérieur et aujourd'hui patron des députés LREM, Christophe Castaner. À présent et à l'occasion de notre journée spéciale sur France Culture intitulée « Vivre d'amour, de livres et d'eau fraîche », invité de la rédaction aujourd'hui Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger Anne-Laure Jumet. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Alors on imagine qu'aujourd'hui ceux qui aimeraient sans doute pouvoir vivre d'amour, de livres et d'eau fraîche, ce sont les libraires qui en l'occurrence ne le peuvent pas, ou du moins pas autant qu'ils le souhaiteraient, compte tenu de la décision du gouvernement de fermer leur commerce pour encore au moins 15 jours, à une période qui plus est déterminante pour leur chiffre d'affaires. Et c'est ainsi que votre groupe, autorisé lui, toujours à vendre des livres sur Internet, se retrouve à présent la cible de toutes les critiques, y compris de la part de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, mais aussi de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Une première question, monsieur Dival, est-ce que vous êtes d'ores et déjà en mesure de chiffrer, en termes de vente, l'appel d'air qu'aura constitué la fermeture des librairies pour une plateforme comme la vôtre?
Alors tout d'abord, merci de m'accueillir. Et en premier lieu, je voudrais dire que j'ai beaucoup d'empathie pour tous les commerces qui sont fermés et que je souhaite que ces commerces réouvrent au plus vite. Je suis absolument convaincu que le commerce de proximité, les libraires en particulier, sont des éléments essentiels dans la transmission de la lecture dans notre pays, en particulier en milieu urbain. Pour répondre à votre question précisément, les chiffres de la FEVAD, qui sont notre fédération de vente à distance, sont à peu près très clairs et disent qu'on a eu un accroissement de notre activité d'entre 30, 40 et 50%. C'est monsieur Monboise qui le dit.
Sur l'ensemble des produits,
sur l'ensemble
pas
des produits,
uniquement les livres.
Et c'est à peu près ce que nous enregistrons nous aussi. Donc on est dans cette lignée-là, pas plus, pas moins.
Sur les livres, on a un chiffre plus précis?
Non, c'est pareil.
C'est pareil.
C'est à peu près pareil.
Alors Amazon, disait Thomas Cluzel, effectivement cible de toutes les critiques. Ce matin, dans une tribune publiée sur le site de France Info, plus d'une centaine de personnes, des libraires justement, des écrivains, mais aussi des responsables d'ONG, des associations, des syndicats, des partis politiques, appellent à stopper Amazon et demandent l'instauration d'une taxe exceptionnelle sur le chiffre d'affaires. Que leur répondez-vous, Frédéric Duval, qu'il y a déjà la taxe GAFA, que c'est bien assez?
Non, mais j'ai envie de dire que effectivement, en ce moment, on est un petit peu le porte-voix de pas mal de gens qui veulent s'exprimer sur la société, sur la façon dont ils vivent aujourd'hui ce confinement. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur cette tribune en particulier par rapport à d'autres. Ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, libraires et commerces de détail sont essentiels, comme je le disais, et complémentaires de l'activité d'Amazon. Si je prends les libraires en particulier, aujourd'hui, on est complémentaire de trois façons différentes. Premièrement, nous, on vend essentiellement des livres qui ont plus de 2 ans. 70% de ce qu'on vend, c'est des livres qui ont plus de 2 ans. Deuxièmement, on livre partout sur le territoire, y compris là où il n'y a pas de libraire. Et puis troisièmement, il y a des centaines de libraires aujourd'hui qui vendent sur la marketplace Amazon et qui, grâce à cela, ont accès à une zone de chalandise plus large.
Voilà, donc, versus plusieurs milliers en France.
Oui, mais c'est plusieurs centaines. Et d'ailleurs, là, je faisais le point avec ma collaboratrice. Depuis qu'on a lancé notre accélérateur numérique, eh ben, ce sont près de 300 entreprises nouvelles qui nous ont rejoints ou qui sont en train de nous rejoindre et qui veulent se lancer dans le numérique. Je pense que c'est important qu'on passe ce message aussi. C'est que, voilà, le numérique, c'est quelque chose d'important pour les entreprises françaises. J'entendais Cédric O dire que 72% des entreprises allemandes sont digitalisées contre 30% en France. Moi, je juge pas, mais je veux être vraiment à la disposition de tous ces commerces, toutes ces petites entreprises, et de leur dire, vous allez pouvoir nous rejoindre, venez, ça sera pas cher et ça vaut le coup.
Justement, être au service des petits commerces aussi, et ils le demandent, c'est renoncer au Black Friday. Qu'est-ce que vous avez décidé à ce sujet, donc cette opération de promotion qui précède Noël et qui est génère un fort chiffre d'affaires pour Amazon?
Mais aujourd'hui, je pense que c'est important pour les entrepreneurs français qui vendent sur les sites en ligne. C'est important pour les fournisseurs qui ont prévu des stocks. C'est important pour les consommateurs que la période de Noël batte son plein.
Et donc vous maintenez cette opération, vous le dites aujourd'hui
offrir.
Sur France Culture.
Je ne dis pas ça, je dis que je considère moi que c'est important. Maintenant on verra, on est encore à 15 jours de l'événement, on verra.
Mais a priori, il n'y a pas de raison pour vous de la
décaler. Je pense que c'est un moment où les Français font des centaines de millions d'euros d'économies. C'est un moment où ils préparent leur fête de Noël. C'est un moment où on achète des jouets pour les enfants. Je pense que ce n'est pas forcément le moment où il faut s'arrêter, non ?
Frédéric Duval, quand on parle d'Amazon, on parle aussi inévitablement de fiscalité. Il faut contraindre Amazon à payer sa part de fiscalité au bien commun, disait ce matin Laurent Berger de la CFDT chez nos confrères de France Inter. Vous déclarez payer 230 millions d'euros d'impôts, un chiffre 2019, mais qui additionne les cotisations patronales, les impôts locaux et l'impôt sur les sociétés. Or, c'est sur cet impôt qu'on estime qu'Amazon fait de l'optimisation en logeant la plupart de ses bénéfices dans des paradis fiscaux comme le Luxembourg. Est-ce qu'on aura bientôt des éléments sur l'impôt sur les sociétés payées en France et sur les bénéfices que vous réalisez dans l'Hexagone?
Alors, nous payons les taxes partout où nous opérons, que ce soit en France ou dans les autres pays. C'est important de le signaler. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est aussi le ministre du budget et de l'économie qui l'ont dit publiquement. S'agissant de l'impôt sur les sociétés, je vous rappelle que dans l'OCDE, sur la fiscalité d'un pays, l'impôt sur les sociétés représente que 4% de la fiscalité d'un pays, 4%.
Et donc, mais regardez, 33,3% pour les entreprises françaises.
Non, 4% de l'ensemble de la fiscalité qui est réalisée.
D'accord. À l'échelle d'une entreprise, c'est un peu important.
Et 33% des bénéfices. Et en fait, regardez la contribution fiscale d'une entreprise à l'aune de cet impôt sur les sociétés est assez réducteur, en fait. Parce que nous sommes partout sur le territoire, nous payons effectivement des impôts locaux, nous payons des impôts sur la valeur ajoutée, nous payons des impôts sur plein d'impôts.
Mais tout mélanger et payer 230 millions quand on génère un chiffre d'affaires de 5,7 milliards, c'est aussi un peu spécieux, non, de tout mélanger.
Pas du tout. Faites. Alors, on n'a pas de rentabilité de l'entreprise au niveau d'un pays comme la France. On ne le calcule pas. Mais regardez bien. Quand on est un retailer, quelqu'un qui fait du retail comme nous, sur un chiffre d'affaires de 5,7 milliards, vous verrez que le profit qui sort de cette activité est très très peu important et que le chiffre de 230 millions d'euros de contribution fiscale nette, en prélèvement net de la part d'une entreprise comme Amazon, est tout à fait conséquent.
Frédéric Duval, la Commission européenne vous a aussi dans le collimateur. Elle vient de vous notifier des griefs. Elle estime que les données des détaillants indépendants sont utilisées par vous pour justement avoir un avantage concurrentiel vis-à-vis des autres. Est-ce que vous allez intenter une action? Comment vous allez riposter?
Non, alors on n'est pas du tout d'accord avec les affirmations préliminaires. C'est comme ça que la Commission européenne le stipule, préliminaire de ces affirmations. On n'est pas d'accord avec elle. Elle veut faire une analyse complémentaire. On va regarder avec elle et on va lui donner tous les éléments nécessaires pour qu'elle puisse avoir une opinion réelle de ce que sont nos process. Je voudrais dire simplement que nous représentons aujourd'hui à peu près 1% du commerce de détail, 1%, donc on n'est pas du tout dans une position d'anti-concurrence, 1%. Et puis on supporte 150 000 entreprises françaises et européennes, 150 000 SMI et entreprises européennes. On se soucie de leur développement, Je voudrais juste pas vous abreuver de chiffres, mais entre l'année 2000 et l'année 2020, la part sur les sites Amazon de ces entreprises est passée de 3% à 60%. Et donc on a vraiment la représentation du fait que nous nous soucions du développement de ces entreprises, beaucoup plus qu'aucune autre entreprise européenne.
Vous allez répondre à la Commission européenne.
Merci Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France, d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup.
Également à Anne-Laure Jumet. De rebondissement en rebondissement, le procès des attentats de janvier 2015 qui devait reprendre aujourd'hui après 2 semaines d'interruption a été à nouveau suspendu jusqu'à lundi prochain sous réserve qu'une nouvelle expertise médicale déclare Ali Rizapola apte à comparaître. Le principal accusé, le seul présent devant les assises spéciales à être jugé pour complicité de crimes terroristes, présente toujours des symptômes du Covid-19 après avoir été testé positif le 31 octobre dernier. En revanche, le procès de l'auteur présumé de l'attentat manqué dans le Thalys en 2015 s'ouvrira bel et bien cet après-midi à Paris devant une cour d'assises là aussi spécialement constituée au plus fort de la vague d'attaques d'inspiration djihadiste orchestrée depuis la Syrie contre la France mais aussi la Belgique. Ayoub El Kazani, ressortissant marocain âgé de 25 ans à l'époque, avait embarqué à bord du train avec une kalachnikov et un pistolet et c'est finalement l'intervention de plusieurs passagers qui avaient réussi à désarmer l'assaillant à main nue et qui avait permis d'éviter très probablement un carnage. Alors ces dernières semaines, la France a encore subi 3 attentats djihadistes, autant d'attaques dont la couverture récente par les médias anglo-saxons ne serait pas du goût visiblement d'Emmanuel Macron, au point que le chef de l'État a même décidé de les interpeller directement grâce à un entretien au New York Times. Dans les colonnes du quotidien américain, le président accuse plusieurs médias de langue anglaise de légitimer la violence. Plus exactement, il leur reprocherait de chercher à imposer leurs propres valeurs à une société différente, notamment du fait de leur incompréhension de la laïcité à la française. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Thomas.
Comment expliquer, Antoine, de tels propos de la part du chef de l'État ?
Alors il y a d'abord une réalité, celle de la spécificité de la laïcité à la française. Depuis 1905, la religion et l'État sont rigoureusement séparés. La religion est reléguée à la sphère privée, d'où par exemple l'interdiction du voile dans les écoles, les collèges et les lycées, qui n'est pas toujours comprise à l'étranger. Autre conséquence, l'absence en France de délit de blasphème. On peut caricaturer, ridiculiser une religion, Dieu ou encore un prophète, avec toutefois l'interdiction d'insulter des croyants. C'est une particularité française inscrite dans le droit et la culture qui est parfois considérée à l'étranger comme de l'islamophobie, à la fois dans des pays musulmans, mais aussi dans des pays anglo-saxons avec un modèle communautariste. D'où ce recadrage d'Emmanuel Macron qui renverse l'accusation d'impérialisme si souvent faite à la France. Ce sont les médias anglophones qui chercheraient à imposer leurs propres valeurs à une société différente, à savoir la France. Ça n'est pas la première fois que le chef de l'État critique les médias. Il est même un habitué de cet exercice. Depuis sa campagne présidentielle de 2017, il n'hésite pas à manifester son désaccord avec le ton d'une interview, d'un article. Et il ne le fait pas qu'avec des journalistes français d'ailleurs. Un mois après son élection, il accusait les médias russes Sputnik et RT d'être des organes de propagande. Et voilà qu'il s'en prend désormais à des journalistes américains dans un média américain, au risque de ne pas tenir compte d'une autre différence entre la France et les États-Unis. De l'autre côté de l'Atlantique, la liberté d'expression, la liberté de la presse sont sacrées. Elles sont garanties par le Premier Amendement. Et la critique des médias américains par un chef de l'État de surcroît étranger risque bien d'être du plus mauvais effet.
Merci Antoine Marette. C'est un véritable exercice d'équilibriste cette fois-ci que sera confronté aujourd'hui le président Emmanuel Macron, lui qui aura été l'un des tout premiers chefs d'État à féliciter le démocrate Joe Biden pour son élection aux États-Unis, recevra aujourd'hui le chef de la diplomatie américaine de l'administration Trump, Mike Pompeo, lequel n'a toujours pas reconnu la défaite du président sortant. Une tournée d'adieu en réalité qui ne dit pas son nom et verra le secrétaire d'État américain visiter pas moins de 7 pays en 10 jours, essentiellement d'ailleurs au Moyen-Orient, c'est-à-dire l'un des chantiers les plus contrastés de l'ère Trump. Alors, Certains y verront peut-être l'occasion, même inavouée, de tourner la page de 4 années d'une diplomatie, disons peu diplomate, ponctuée d'attaques personnelles et d'un désordre permanent. Reste tout de même à savoir ce que l'administration sortante espère de cette ultime baroude d'honneur. Élément de réponse avec Christian Chesneau.
Le message est clair, d'ici le 20 janvier prochain, date de prestation de serment à la présidence de Joe Biden, l'administration Trump utilisera ses pouvoirs jusqu'à la dernière minute et notamment dans le domaine diplomatique. Le président américain pourrait être tenté de laisser des mines et des dossiers piégés à son successeur à la Maison-Blanche. On connaît l'aversion de Donald Trump pour le régime iranien qu'il a tenté de mettre à genoux économiquement, mais qui est toujours aux commandes. Il avait notamment ordonné la liquidation physique du général iranien Qassem Soleimani, chef de la force Al-Quds, un proche du guide suprême. Le président battu aux élections a-t-il l'intention de partir sur un coup d'éclat contre l'Iran alors que son successeur a promis de réintégrer l'accord sur le nucléaire? Un coup de sang du président est toujours possible. Un haut responsable américain a en tout cas fait savoir que la pression maximale de Washington contre Téhéran allait continuer jusqu'au 20 janvier et sans doute au-delà. Donald Trump pourrait aussi donner son feu vert à de nouveaux projets expansionnistes de Benjamin Netanyahou dans les territoires palestiniens. Sa présidence aura été la plus pro-israélienne de l'histoire des États-Unis. Enfin, le président américain a l'intention d'accélérer le retrait des GIs stationnés en Afghanistan et en Irak. Autant de dossiers qui sont vus d'un mauvais œil par la France, qui n'a qu'une seule hâte, travailler avec la nouvelle administration de Joe Biden.
Isolé sur la scène internationale, mais aussi fragilisé après la défaite de son modèle Donald Trump, Jair Bolsonaro était appelé à vivre ce week-end son premier test électoral dans l'ombre du coronavirus. Plus exactement, les Brésiliens étaient appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales dont les enjeux locaux ne permettent pas, c'est vrai, nécessairement de tirer des enseignements nationaux, d'autant que le président d'extrême droite n'est plus affilié aujourd'hui à aucun parti. Pour autant, Jair Bolsonaro n'aura pas réussi à faire élire ses poulains dans les principales villes du pays. En d'autres termes, le chef de l'État n'apparaît plus aujourd'hui comme le faiseur de rois qu'il était il y a encore 2 ans. Et puis, autre leçon de ce premier tour de scrutin, les Brésiliens ont massivement accordé leur soutien aux partis dits traditionnels, en particulier du centre et de la droite conservatrice, où quand la force du bolsonarisme se retrouve nettement remise en question, et ce, Nadine Epstein, à 2 ans seulement de la présidentielle.
Le premier tour des municipales a été mauvais pour le président Bolsonaro. Ses poulains n'ont pas convaincu les électeurs brésiliens. La majorité d'entre eux ont été recalés et dans beaucoup de grandes villes, ils sont en ballottage défavorable. Par exemple, à Rio, le candidat du président n'a obtenu que 22% des suffrages contre 37% pour le représentant du parti de centre-droit DEM. À Sao Paulo, le maire sortant du PSDB, centre-droit, est arrivé en tête. Le soutien de Bolsonaro a lui été devancé contre toute attente par le candidat du parti de gauche Socialisme et Liberté. C'est un bon thermomètre pour la température politique du pays. Cela montre que le président n'est plus le faiseur de roi qu'il était il y a 2 ans, lorsqu'il pouvait faire élire des inconnus, explique un politologue. Et il ajoute que Jair Bolsonaro, qui n'est affilié à aucun parti, va devoir, pour gouverner sa coalition de partis, aller beaucoup plus vers le centre. À cause de la pandémie du Covid, la campagne électorale s'est surtout déroulée sur les réseaux sociaux et peu sur le terrain. Pour autant, il y a eu de nombreuses violences et plusieurs dizaines d'assassinats. Le second tour des municipales se déroulera le 29 novembre.
Au Bélarus, les partisans de l'opposition sont à nouveau descendus dans la rue hier pour réclamer le départ du président autocrate Alexandre Loukachenko, soutenu par Moscou. Les forces de l'ordre ont immédiatement dispersé la foule en colère et procédé à plus de 300 interpellations. Confronté à la multiplication des mouvements de contestation visant ses alliés, non seulement au Bélarus mais aussi au Kirghizistan, la Russie serait-elle en revanche en train de perdre définitivement cette fois-ci son influence dans une autre ex-république soviétique, la Moldavie? Hier, l'ancienne première ministre résolument pro-européenne, Maia Sandu, a largement remporté le second tour de la présidentielle avec 57% des suffrages contre 43% pour le candidat pro-russe sortant visé par des accusations de corruption. Après avoir été reporté à plusieurs reprises, c'est aujourd'hui que doit s'ouvrir le procès en appel de l'opposant algérien Karim Tabou, figure du mouvement populaire de contestation anti-régime. L'homme, âgé de 47 ans, chef d'un petit parti d'opposition non agréé, poursuivi pour atteinte au moral de l'armée et à l'intégrité du territoire, il encourt jusqu'à 10 ans de prison. Enfin, il s'était fait connaître pour son sarcasme et ses critiques virulentes des pays occidentaux. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Mualem, soutient soutien indéfectible du pouvoir de Bachar al-Assad est décédé la nuit dernière à l'âge de 79 ans en 2011. Il avait été un fervent défenseur de la répression sanglante du mouvement de contestation populaire à l'origine de la guerre civile devenue en près d'une décennie un conflit armé autant qu'une guerre régionale et confessionnelle par procuration. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par des passages nuageux encore nombreux sur un large quart nord-est du pays, de même que sur le Limousin, le massif central, au pied des Pyrénées, sur la Côte d'Azur. Partout ailleurs, le ciel sera plus changeant, avec quelques belles éclaircies. Quant aux températures, elles afficheront entre 11 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommé. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.
Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Aérons les pièces plusieurs fois par jour. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci était un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
12h56 sur France Culture, l'heure de vous retrouver Olivia Gesbert pour la grande table des idées.
Merci beaucoup Thomas Cluzel, on est ensemble avec mon invité Paul Jorion jusqu'à 13h30. Toute la journée, Radio France soutient le livre, les éditeurs, les libraires et les bibliothèques. Aujourd'hui encore, cette émission n'aurait pas été la même sans le travail réalisé par une petite maison d'édition, les éditions du Croquant, fondée il y a 17 ans, à peine majeure donc, mais claire sur sa démarche et ses fondements. Critique, collectif, coopérative, la maison publie majoritairement dans le domaine des sciences humaines et dans le sillon de raison d'agir. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le trumpisme reste-t-il un objet populiste non identifié, alors que paraît Haute trahison, le tome 2 de la chute de la météorite Trump aux éditions du Croquant, de l'anthropologue Paul Jorion, chercheur iconoclaste. On l'a connu un an avant 2008, anticipant la crise des subprimes dans la crise du capitalisme américain. Après un premier volume, entamé pendant la primaire de 2015, sous-titré « Un objet populiste mal identifié, la chute de la météorite Trump déjà », il poursuit son journal de bord d'une élection 16 mois après l'investiture de l'OVNI républicain. C'est là que ses lignes commencent. Dans un pays toujours sous le coup de la sidération. Bonjour Paul Jorion.
Bonjour.
Vous êtes avec nous à distance de chez vous, du côté de la Bretagne. C'est le livre d'un observateur passionné, ce Trump, ce Haute trahison, hein, qui est le tome 2 de la chute de la météorite Trump, d'un observateur passionné et obstiné, le regard d'un Européen certes, mais matiné de culture américaine, pays où vous avez vécu et travaillé pendant plus de 10 ans, Paul Jorion.
Oui, en effet, oui, c'est un pays que je connais très bien.
Pour y avoir vécu, hein, et travaillé.
Oui, oui, j'avais déjà des liens familiaux avant, mais j'ai habité effectivement de manière continue de 1997 à 2009, pardon, oui, à 2009, dans le pays, travaillant dans le, essentiellement dans le secteur financier, mais ayant aussi gardant des liens avec l'université, en particulier avec l'université de California Irvine qui m'avait invité, et avec l'université de Californie à Los Angeles, UCLA, dont j'ai continué à faire partie d'un des centres Human Complex Systems.
Alors, comme chercheur, vous vous passionnez, on l'imagine, pour la vie des idées américaines, mais visiblement aussi pour la vie politique. En 2016, déjà, 2015, pendant la campagne, vous avez suivi de près l'élection qui a vu arriver à la Maison-Blanche Donald Trump.
C'est-à-dire c'était un personnage que tout le monde connaissait. Je regardais un film l'autre jour, un film Die Hard, un film des années 90, et on fait référence à Trump à plusieurs reprises, de manière d'ailleurs un peu prémonitoire, sans le faire exprès. Donc c'est un personnage qui attire l'attention depuis longtemps. Et puis il était clair qu'il s'agissait d'un personnage, je dirais, équivoque, peut-être même dangereux, puisqu'à partir des années 80, il avait fait des déclarations très favorables à l'époque à encore l'Union soviétique.
Est-ce que vous l'avez tout de suite pris très au sérieux ?
Ah oui, tout à fait. Oui. J'ai parlé de proto-fasciste tout de suite, mais dans mon vocabulaire à moi, qui est pas un vocabulaire de polémiste, j'appelle pas fasciste tous les gens qui sont pas d'accord avec moi, dans le sens très particulier, voilà, de quelqu'un qui allait tenter de mettre en place quelque chose de l'ordre d'un Mussolini, d'un Hitler, d'un Franco.
Vous écrivez en introduction de ce livre, de ce tome 2, Haute Trahison, qui est un recueil aussi de vos posts sur votre blog, de vos chroniques, Paul Jorion. Vous dites qu'au moment où débute ici l'action, c'est-à-dire en mai 2018, 16 mois après l'arrivée de Donald Trump à la présidence américaine, il est déjà président depuis donc 16 mois et les États-Unis découvrent peu à peu que les institutions de leur pays n'ont pas anticipé l'irruption dans le magasin de porcelaine de leur République fédérale d'un malappris pour qui la frontière entre vérité et mensonge n'existe pas, qui considère son intérêt personnel comme l'unique critère de ce qu'il entend faire, à qui la notion d'un processus collégial est parfaitement étrangère et qui du coup fait rapidement le vide autour de lui en termes de conseiller dont il conviendrait de prendre l'avis et vous revenez notamment sur ces différentes évictions. On va revenir à cet automne-là et au discours de Joe Biden annonçant le 7 novembre dernier sa victoire à l'élection américaine.
Je m'engage à être un président qui ne cherche pas à nous diviser, mais à nous rassembler. Qui ne voit pas des États bleus et des États rouges, mais uniquement les États-Unis. Et je vais travailler pour tout le peuple. Je vais travailler avec acharnement pour obtenir votre confiance. Les États-Unis, c'est une question de confiance, c'est une question de peuple. Les États-Unis, c'est un peuple. Et voilà le projet de notre administration. J'ai lancé ma campagne pour reconstruire notre nation, pour protéger l'âme des États-Unis, pour protéger la classe moyenne et pour faire en sorte que les États-Unis soient à nouveau respectés sur la scène internationale. Et pour nous unir ici aux États-Unis, c'est l'honneur de ma vie. C'est un honneur de voir autant de millions d'Américains qui se sont joints à moi, qui ont voté pour cette vision. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir commencer à concrétiser cette vision. C'est une grande tâche qui nous incombe.
Voilà, vous aviez analysé, Paul Jorion, l'élection de 2016, qui a vu arriver Donald Trump à la Maison-Blanche. Sur cette élection-là, où Trump est à nouveau candidat, postule à sa réélection. Quelle surprise dans ce scrutin pour vous ?
Finalement, il n'y en a pas eu. On a eu au moment le 4 au matin pour nous, c'est-à-dire quand on connaît les premiers résultats des votants, des gens qui sont allés véritablement dans un isoloir, on a pu avoir l'impression que Trump pourrait l'emporter. Et aussi, parce que la tentation est toujours de dire que les instituts de sondage se trompent. Ça avait été le cas en 2016. On a dit les instituts sont trompés. Ils s'étaient pas trompés du tout. Cette fois-ci non plus, ce sont pas trompés. Ils avaient tenu compte du fait que dans un sondage, quand quelqu'un vous dit « je ne vais pas voter Trump », il y a à peu près 1% voilà, des électeurs qui mentent. Et à l'image de leur patron, c'est-à-dire qu'ils cachent le fait qu'ils m'ont voté pour Trump. Donc, parce qu'il y a un certain stigma vis-à-vis même de quelqu'un qui d'un agent qui fait un sondage. Mais si on tient compte de ça, non, on a eu exactement ce qui avait été prévu. 50% du vote.